Place Info.
Bonjour Sébastien Chenu.
Bonjour monsieur.
Édouard Philippe s'adresse donc ce soir aux Français sur TF1 et avant cela aux partenaires sociaux à la mi-journée pour dévoiler sa réforme des retraites. Qu'est-ce que vous espérez de son discours ?
Moi j'espère que le gouvernement va faire preuve de lucidité. C'est-à-dire qu'il va renoncer à cette réforme et qu'il va ouvrir des négociations sur ce qui mérite peut-être d'être réformé, c'est-à-dire les carrières hachées, la pénibilité, ou qu'il va dire qu'il consultera les Français sur la réforme s'il choisit la confirmer ce soir, qu'il les consultera par référendum. J'aimerais que le Premier ministre se rende compte que cette réforme, elle est injuste, et qu'elle suscite et qu'elle sème le désordre dans une société qui, il faut bien le dire, n'en a pas besoin. Et j'ai l'impression que le gouvernement s'est arc-bouté sur cette réforme en faisant un cheval de bataille quasiment par orgueil, alors qu'aujourd'hui, on voit bien que des tas de situations nous démontrent que les Français verront leurs pensions baisser. J'y reviendrai si vous le permettez.
Quelle question il faut poser aux Français si on la soumet à référendum ?
Eh bien, je pense qu'il faut rédiger le projet de réforme des retraites tel que le gouvernement le proposerait aux Français.
Et faire voter les Français sur l'ensemble du texte ?
Oui, comme on l'a fait, voyez-vous, sur le traité de Maastricht il y a quelques années. Il y avait le référendum sur le traité de Maastricht, il y avait un traité qui était difficile d'accès. Et les Français se sont à l'époque passionné pour ce traité. Eh bien, que le gouvernement couche sur le papier sa réforme des retraites et puis qu'il demande aux Français leur avis, ça me semble être de bonne politique.
Renaud Dely.
Donc Sébastien Chenu, vous ne réclamez pas le retrait
si,
du projet gouvernement.
Bien sûr, en premier,
si le retrait, gouvernement le retire, il ne peut pas y avoir de référendum sur le projet.
Non, mais on a bien compris. Je réclame, je l'ai dit en premier lieu, le retrait, que le gouvernement soit lucide, qu'il renonce à ce projet. S'il ne renonce pas, car je suis, comme je vous le dis, lucide, Édouard Philippe ne va pas nous annoncer le retrait tout à l'heure, alors je lui demande de consulter les Français par référendum pour savoir s'ils adhèrent à ce projet. Je note juste quelque chose. On voit que ce débat, il est en train de se déplacer sur du catégoriel. C'est-à-dire qu'au début, on nous a dit il y aura zéro perdant avec cette réforme des retraites. C'est une réforme qui va assurer plus de justice pour tout le monde. Il y aura
un
zéro perdant.
Un système universel pour lequel chaque euro cotisé ouvre droit.
C'est ce que le gouvernement nous a dit.
Et puis
comme les Français se sont informés, comme les gens se sont renseignés, on s'aperçoit qu'il y a des tas de situations dans lesquelles il y aura une baisse des pensions à des horizons divers et variés. Et aujourd'hui, le gouvernement, on va voir ce que le gouvernement annonce, mais semble colmater les choses en reconnaissant qu'il y aura bien des perdants à cette réforme des retraites et en compensant par un certain nombre de dispositifs que le Premier ministre semble vouloir annoncer tout à l'heure, eh bien c'est perdant probable. Donc il y aura bien des perdants à cette réforme des retraites.
Sébastien Chenu, à l'origine, la réforme, dans le rapport Delevoye en tout cas, était censée s'appliquer à partir de la génération 1963. Finalement, on apprend ce matin sur une indiscrétion de nos confrères de France Inter que c'est la génération 1975 qui va étreiner cette réforme, c'est-à-dire celle qui aura 50 ans dans quelques années, en 2025, quand la réforme va entrer en vigueur. C'est un recul ou c'est un geste d'apaisement ?
Écoutez, si une réforme est bonne, le gouvernement nous dit notre réforme est bonne, on veut la maintenir. Je vois pas pourquoi on bouge les délais. Si ce n'est pour essayer de trouver des accords avec un certain nombre de syndicats qui, eux, accepteraient qu'en échange de bouger la date d'entrée en application de cette réforme, ils lèvent les grèves. Donc, c'est un rideau de fumée, c'est un artifice. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis.
Essayer de convaincre les syndicats, ça s'appelle aussi du dialogue social.
Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont des économistes qui ont soutenu Emmanuel Macron, qui hier, dans un grand quotidien, expliquait que cette réforme leur paraissait juste et qu'ils ne voyaient pas en quoi son entrée en vigueur repoussée permettait de changer les choses.
Et si une réforme est bonne,
ils souhaitent l'appliquer. Le gouvernement, en fait, nous montre tellement, il est brouillon, nous montre son incapacité à convaincre les Français. Alors on est là dans du rafistolage, on va essayer de compenser des situations injustes ici et là, on va reculer l'âge d'entrée en vigueur de la réforme. Ça nous montre que cette réforme, elle est vraiment mal ficelée.
Si cette réforme se fait et que vous arrivez au pouvoir, vous prenez l'engagement de la défaire.
Mais nous, c'est pas du tout ce que nous souhaitons faire. Nous souhaitons un plan de sauvegarde.
Mais de la défaire.
On fera autre chose. Ouais. On reviendra sur cette réforme, évidemment, puisqu'elle ne nous semble pas aller dans le bon sens. D'ailleurs, la question de fond, c'est est-ce que cette réforme était nécessaire aujourd'hui, comme ça, dans ce sens-là, avec ce qui est proposé. Moi, je pense qu'il y avait des choses à voir. On pouvait parler, je l'ai dit, de la pénibilité, on pouvait parler des carrières hachées, mais moi, je pense que c'était plutôt l'idée d'un plan de sauvegarde des retraites qui était intéressante à travailler, et non pas déconstruire l'édifice social construit avec les efforts des Français.
Cette réforme, Sébastien Chenu, elle vise aussi, selon le gouvernement, à supprimer les régimes spéciaux, notamment ceux en vigueur à la SNCF et à la RATP. Vous et le Rassemblement National, vous êtes désormais favorable au maintien de ces régimes spéciaux.
Mais vous savez, c'est un faux débat, je pense, ces histoires de régimes spéciaux. D'abord,
c'est pas ce que pensent les grévistes de la SNCF et de la RATP.
Mais je pense que c'est un faux débat parce qu'on agite tout ça pour diviser les Français. Des régimes spéciaux, oui. Un certain nombre ont leur utilité. C'est une évidence.
Ceux de la SNCF et de la RATP.
Mais ceux de la SNCF et de la RATP, on peut peut-être en parler. Évidemment, on nous jette comme ça en pâture le fait que les gens partent à 52 ans en retraite. Dans la réalité, ils ne partent pas à 52 ans. Ils travaillent plus longtemps pour avoir une retraite à taux plein. Ils partent à 59 ans. Il y a des régimes spéciaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a des situations spéciales. Je vous rappelle que l'écart en termes de mortalité entre un ouvrier et un cadre est de 6 ans. Quand on travaille, qu'on soit dans le public ou dans le privé, même si on fait un travail d'ouvrier ou de cadre, on ne part pas sur un même pied
aujourd'hui,
d'égalité.
Aujourd'hui, ces situations spéciales que vous évoquez, Sébastien Chenu, elles sont justifiées aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas longtemps de la position du Front National. Jusqu'en 2007, ils prenaient la suppression de ces régimes spéciaux considérés comme des privilèges de caste des syndicats, je cite le programme du FN.
Moi, je pense qu'on peut revoir un certain nombre de cas, mais à partir du moment où on considère la pénibilité, les carrières hachées, et la pénibilité, on peut la voir par exemple dans le service hospitalier, et là on a besoin de régimes qui soient différenciés. Régimes spéciaux.
Donc vous conservez le régime spécial des cheminots.
Je pense qu'il y a des régimes spéciaux qui mériteraient d'être maintenus. Celui des cheminots peut être discuté, par exemple. Mais je pense que derrière le régime...
discuté, ça veut dire que c'est-à-dire qu'on peut,
regarder si effectivement les gens partent à 52 ans ou si dans la réalité, comme je le pense, en réalité ils partent plus tard.
Ils partent plus tard, c'est la réalité aujourd'hui. Mais est-ce qu'il faut maintenir ou pas ce régime ?
On nous balance, et d'ailleurs vous le faites, le régime spécial des agents de la SNCF ou de la RATP. Et je viens de vous dire, on peut le regarder. Moi, je n'ai pas de tabou. Je ne vois pas pourquoi on ne le regarderait pas. En revanche, je ne pars pas du postulat que les régimes spéciaux sont à sabrer directement parce qu'ils ne correspondraient à rien. Ils correspondent tous à quelque chose, à une spécificité, évidemment.
Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement National, vous restez avec nous si vous voulez bien. 9h20, l'actualité d'abord de ce mercredi matin. On est bien mercredi, c'est Mélanie Delaunay.
La décision a été actée dans la nuit par Emmanuel Macron. La réforme des retraites va commencer à s'appliquer avec la génération 1975 en 2025, selon les informations de France Inter. Les jeunes de 18 ans, eux, entreront dans le nouveau système à partir de 2022. Édouard Philippe va annoncer le détail de la réforme à midi. Les sénateurs vont réformer leur régime spécial de retraite. Gérard Larcher, lui, fera des propositions, demain, jeudi. Les forces de l'ordre débloquent 9 dépôts de bus de la RATP en région parisienne. Les transports en commun toujours rares au 7e jour de la grève. La région Île-de-France affrète 220 bus pour faciliter les déplacements. Un premier procès en appel pour le couple Balkany condamné à 4 ans de prison en première instance. Le maire de Levallois-Perret sera dans le box tout à l'heure, sa femme sur le banc des prévenus. J'ai une seule boussole, c'est la sécurité, assure le préfet de Seine-Maritime sur France Bleu Normandie à propos de la réouverture partielle de l'usine Lubrizol de Rouen. Il prévoit de suivre l'avis positif donné par un comité technique.
France Info. Et tout est plus clair.
Sébastien Chenu, votre parti, le Rassemblement National, semble divisé sur la question de sa présence ou non dans les cortèges en ce moment contre la réforme des retraites. Vous, personnellement, vous avez manifesté hier ?
Non, parce que j'étais au Parlement hier, voyez-vous. J'étais à l'Assemblée nationale. Non, on n'est pas divisé, on a exactement la même position à chaque fois que les Français descendent dans la rue, quels que soient les sujets. À chaque fois.
Non, ça n'avait pas été le cas sur le mariage pour tous, par exemple.
Il n'y a pas de mot d'ordre. Ben voilà, vous venez de le dire. Certains avaient choisi de manifester, d'autres
non. Votre position,
non.
C'est qu'il n'y a pas de position.
Et je vais vous dire, il y en avait même qui avaient manifesté pour le mariage. Mais à l'époque, je n'étais pas au Front National. Donc vous voyez, nous ne sommes pas une organisation syndicale. Nous laissons nos adhérents, nos militants, nos élus faire exactement ce qu'ils veulent. Il se trouve que certains choisissent d'aller manifester, y compris dans nos adhérents, ils sont assez nombreux, et d'autres choisissent de ne pas le faire, quels que soient les sujets. Sur le mariage pour tous, sur la PMA, certains ont choisi d'aller manifester, d'autres pas. Mais c'est pas notre boulot d'aller dans la rue. Notre boulot, c'est de proposer d'autres solutions.
Mais Sébastien Chenu, un parti politique qui n'a pas de position, c'est un parti de gouvernement ?
Ah non, on a une position sur le fond. On n'est simplement pas une organisation syndicale. Ce n'est pas à nous de dire à nos militants « allez manifester » ou « n'y allez pas ». Chacun est libre de le faire chez nous. Et d'ailleurs, c'est plutôt ce qui nous honore. Vous savez, quand je vois le décalage entre ce que demandent, par exemple, certaines organisations syndicales comme la CGT, et puis la réalité, c'est-à-dire les positions de fond et les désaccords qu'il y a entre les responsables nationaux de la CGT et les adhérents de la CGT sur le terrain, il y a un différentiel très fort d'analyse, et notamment en ce qui concerne parfois la mobilisation électorale, puisque la CGT se mêle régulièrement d'élections. Bon, nous, on choisit, en tant que parti politique, d'avoir des propositions de fond sur cette réforme des retraites. On en a fait, on en fera. Sur les mobilisations, chacun est libre de savoir s'il a envie d'aller manifester. Je comprends qu'on n'ait pas toujours envie de se retrouver à manifester avec des gens qui, pour certains militants syndicaux, vous crachent au visage toute l'année.
Vous-même, quand vous êtes allé manifester, ça s'est pas bien passé. Vous avez été expulsé d'une manifestation à laquelle vous vouliez participer.
Ou comme Monsieur Martinez, qui appelle à voter Emmanuel Macron et qui ensuite nous dit c'est pas bien ce que fait Emmanuel Macron. Bon, évidemment, les cocus sont rarement contents de leur sort, mais c'est un peu celui de Monsieur Martinez. Moi, ce qui me concerne, je suis allé sur des points de blocage, voyez-vous, la semaine dernière, parce qu'évidemment, ma sécurité personnelle n'était pas assurée dans les cortèges organisés par la CGT. Je vous rappelle que j'ai été, sans que ça ne fasse broncher aucun député En Marche ou dirigeant politique, agressé par la CGT la dernière fois. Je suis allé discuter avec des militants FO, avec des militants CGT. Parfois ça se passe bien, parfois ça se passe moins bien. Et oui, il y a des gens, vous savez, c'est ce que dit Montaigne, je vais vers celui qui me contredit. Mais c'est mon boulot d'élu d'aller faire ça.
Alors, ce mouvement et la grève, notamment dans les transports qui durent maintenant depuis une semaine, génèrent un certain nombre de blocages, de gênes en tout cas pour les usagers. Ici même, le vice-président du parti Les Républicains, Guillaume Pelletier, qui était notre invité hier, il sort carrément le terme de prise d'otage de ces usagers et il réclame un service minimum garanti. Écoutons-le.
Oui, j'appelle ça une prise d'otage. Quand je vois comment des non-grévistes, et c'est leur droit aussi, sont attaqués et agressés par certains. Quand je vois ces millions de Français qui n'ont pas d'autre choix que d'aller travailler, oui, je crois qu'un service minimum garanti est indispensable et que pour garantir ce service minimum, s'il faut aller jusqu'à la réquisition d'un certain nombre de personnel comme cela existe pour les pompiers ou dans les hôpitaux, ce me semble être sage.
Alors vous êtes du côté des grévistes ou des usagers ?
Moi, je déteste tout ce qui hystérise les débats. Guillaume Pelletier, il a quand même deux spécialités.
Parce que la première, c'est qu'il vient de chez vous d'abord.
Oui, ça fait longtemps.
Oui.
Ça commence à dater.
Le président du Front National de la Jeunesse il y a quelques années.
Mais si on devait, par exemple, faire la liste de tous les gens qui viennent des
et vous,
Républicains
vous venez
qui sont
aujourd'hui.
Et qui sont à la République
croisés,
en Marche.
Hein. Vous êtes croisés, c'est ça, j'ai vu à l'époque d'ailleurs.
Les croisements politiques sont nombreux. Donc, il hystérise le débat. Moi, je trouve ça, je trouve pas ça bien. On est dans un moment où notre société a pas besoin de cette hystérisation. Et puis surtout, il est dans une famille politique qui défendait la retraite par points. François Fillon nous expliquant lui-même que la retraite par points avait un intérêt, c'était de pouvoir faire baisser le point, de pouvoir le faire varier. Donc moi je veux bien que Guillaume Pelletier ait des positions.
Concrètement, est-ce que vous êtes favorable à la réquisition de
certains
personnels?
Moi je suis favorable à ce qu'il y ait un service minimum dans notre pays. Il existe. D'ailleurs, dans un certain nombre de cas, on le sait chez les pompiers, on le sait dans les hôpitaux, il y a un service minimum.
Comment
les
vous mettez en place un service minimum, par exemple, quand il y a, comme aujourd'hui, les trois quarts des conducteurs qui sont en grève?
Je vous le dis, je sais que si je suis favorable sur cette position de principe, elle n'est pas simple à mettre en place. C'est une évidence. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy, de mémoire, s'y est plus ou moins cassé les dents. Donc j'y suis favorable parce que je pense qu'on doit permettre, c'est le rôle de l'État, que de permettre aux Français de pouvoir se déplacer dans les transports, de pouvoir être soignés en cas de besoin, même en cas de grève. Et d'ailleurs, les soignants
soignent les Français
qui se présentent devant eux. Je sais que ce n'est pas simple à mettre en place.
Dans les transports, Sébastien Chenu, vous êtes favorable au principe, mais vous ne savez pas comment faire.
Non, mais je suis favorable, mais parce que ça se décide pas de façon autocrate. Ça veut dire qu'il faut se mettre à une table de négociation, voir avec les syndicats, avec les professionnels, comment on s'entend sur ça. Mais c'est un objectif dans une société moderne à avoir, je pense, un service minimum de fait pour permettre aux Français de pouvoir se transporter et aller travailler.
Pas de réquisition de personnel, en tout cas.
Non mais ça, la réquisition de personnel, ça ne marche pas surtout.
Alors attendez,
ça ne marche
excusez-moi, pas. Comment vous mettez en place un service minimum d'accueil
je vous le dis,
lorsqu'il y a un taux de grévistes important sans réquisitionner les grévistes?
Je vous le dis, il faut ouvrir des négociations dans cet objectif-là.
Mais
c'est
avec
pas
quel
en
but
le décidant.
Si les gens sont grévistes, ils ne sont pas au travail. S'ils ne sont pas grévistes, ils sont.
Non, il y a des incitations. Il y a des bonifications.
C'est-à-dire offrir une prime aux grévistes pour qu'ils arrêtent de faire la grève.
Non, pas aux grévistes. Offrir une prime aux agents qui accepteraient de travailler pour assurer un service minimum. On peut l'imaginer. Mais tout ça, ça se négocie. Tout ça, ça se négocie. C'est un objectif qu'on peut avoir. Vous savez, Emmanuel Macron, il avait un objectif qui était de réformer les retraites. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que la méthode n'a pas été au rendez-vous. Je dois même dire que celui qui porte la réforme des retraites, M. Delevoye, compte tenu de ses oublis de déclaration, n'est même plus en capacité de porter cette réforme des retraites. Donc, effectivement, on peut avoir des objectifs et après une méthode. Eh bien, moi, je pense que l'objectif d'avoir un service minimum dans un pays me semble tout à fait normal. Il faut avoir une méthode pour le faire.
Ce mouvement, Sébastien Chenu, il a aussi des conséquences. Il commence à avoir des conséquences économiques dans certains secteurs, notamment du commerce, donc chez les commerçants, chez un certain nombre de PME. Et à l'approche en particulier des fêtes de Noël. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui, donc dans le monde du commerce ou des PME, subissent ces conséquences économiques de ce mouvement de blocage? Vous dites « prenez patience ».
Non, je ne leur dis pas de prendre patience, je leur dis aidez-nous à faire comprendre au gouvernement qu'il fait fausse route.
Donc, mobilisez-vous. Venez manifester.
Non, mais chacun est en capacité de faire passer des messages selon la façon dont ils travaillent. Les commerçants vont pas baisser le rideau. C'est une de leurs meilleures saisons à partir du moment où ils peuvent évidemment avoir des clients. Mais je pense que les Français, c'est pour ça que nous demandons un référendum, doivent se mobiliser pour faire passer sous toutes les formes au gouvernement le message qui est cette réforme n'est pas acceptable en l'état.
Vous disiez des choses à corriger tout à l'heure à l'instant, Sébastien Chenu, tout ce qui hystérise le débat. Vous pensez qu'un référendum y contribuerait? À apaiser le débat.
Oui, parce que sur un référendum.
Un référendum, en général, ça scinde davantage encore plus un pays. On le voit par exemple, notamment avec le Brexit.
Non, mais un référendum, on parle du fond, de choses. Tout à l'heure, vous savez, vous jetez en pâture le statut des salariés de la SNCF.
Non, je vous reprends parce que ça fait deux fois que vous utilisez cette expression. Personne à ce micro
n'a jeté. Mais si, parce qu'on parle que de ça.
On parle que de ça. Non, personne à ce micro n'a jeté en pâture le statut des cheminots de la SNCF, je vous assure.
Regardez, je vous donne un autre régime spécial. Les danseurs de l'Opéra de Paris, ça concerne tellement peu de monde. On imagine bien qu'effectivement, on va pas faire des pointes à 65 ans. Bon, et donc ils ont un régime spécial. Donc on peut peut-être comprendre que ça ait une spécificité. Je le dis parce que d'ailleurs, la SNCF, il y a la fin du statut qui s'annonce bientôt. Donc, de toute façon, ce sera aussi la fin du régime spécial en réalité. La fin du statut à l'embauche qui a été faite par la réforme de la SNCF. Donc je veux dire, faut pas qu'on se concentre sur ce problème, sur le référendum. Je pense qu'effectivement, c'est
ça
un moment.
Apaiserait la situation.
Je pense que c'est un moment de débat de fond dans le pays. Vous savez, on a connu des référendums dans ce pays. Ça ne veut pas dire que les conversations ne soient pas vives, que les débats ne soient pas vifs, mais je pense qu'au moins on parle du fond et on ne jette pas comme ça des situations personnelles des uns et des autres tout au long des débats sans finalement vraiment savoir quelle est la réalité des cas individuels.
Le porte-parole du Rassemblement national, Sébastien Chenu, invité de France Info pour quelques minutes encore. On va aborder, si vous voulez bien, dans quelques instants, le procès sur le financement de votre parti qui vient de se terminer, et puis les comptes également du Rassemblement National. Y a-t-il, oui ou non, un risque pour les mois qui viennent? Mais d'abord, le rappel de l'actualité à 9h10, Mélanie Delaunay.
Le détail de la réforme des retraites, ce sera tout à l'heure à midi avec les annonces d'Edouard Philippe. Ce qu'on sait déjà, c'est que la génération 1975 sera la première concernée, ceux qui auront 50 ans, au 1er janvier 2025, selon les informations de France Inter. Les syndicats déterminés à ne rien lâcher, ils appellent à deux journées de mobilisation, demain des actions locales et mardi prochain, une grande manifestation à Paris. À Strasbourg, le recueillement aujourd'hui, un an après l'attentat qui a fait 5 morts au marché de Noël, une stèle en hommage aux victimes va être dévoilée. Leur emprisonnement est intolérable, dit Emmanuel Macron. Il appelle à la libération de deux chercheurs français détenus en Iran depuis le mois de juin, Roland Marchal et Fariba Adelka. Et puis Lyon, qualifié sur le fil pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions de football. Match nul 2-2 contre Leipzig. Une qualification ternie par des affrontements entre supporters ultra et joueurs.
France Info. Et tout est plus clair.
Toujours avec Sébastien Chenu et le procès donc du financement du Rassemblement National qui vient de s'achever. Renaud Dely.
En l'occurrence, six proches de Marine Le Pen étaient poursuivis pour escroquerie et abus de biens sociaux. Ils avaient créé un micro-parti qui s'intitule Jeanne, qui surfacturait aux candidats FN un kit de campagne que ces candidats, se faisaient ensuite rembourser avec de l'argent public, donc avec l'argent des contribuables. En l'occurrence, au total, ce montage aurait atteint près de 9 millions d'euros. On se souvient du slogan historique du Front National, Sébastien Chenu, qui était « tête haute, main propre ». Les autres partis étaient, entre guillemets, pourris, c'était les termes du Front National. Aujourd'hui, le Front National est un parti comme les autres,
de ce point de vue-là. Vous ne donnez que la moitié des éléments. Vous oubliez de dire que dans le cas précis, l'ensemble de nos comptes de campagne ont été validés par la Commission nationale des comptes de campagne. C'est quand même pas rien. C'est-à-dire que tous nos comptes de campagne ont été validés et, mieux, nous avons dépensé moins que les autres partis politiques.
Vous vous souvenez, Sébastien Chenu, pardon de parler d'un autre parti politique, que les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy avaient été validés avant l'affaire Big Malion aussi.
D'accord, mais je veux dire, on peut faire tous les procès d'intention qu'on veut.
Là, on parle de justice, d'un tribunal.
Nous n'avons rien à nous reprocher. D'ailleurs, je rappelle que Marine Le Pen n'a absolument rien à voir dans ce procès.
Ce que j'ai oublié d'évoquer aussi, Sébastien Chenu...
Non, mais il faut dire les choses.
Ce que j'ai oublié d'évoquer, vous avez raison, Sébastien Chenu, sont aussi les réquisitions extrêmement lourdes, en l'occurrence, de la justice à l'endroit de plusieurs proches de Marine Le Pen, Jean-François Jalques, eurodéputé, créateur de Jeanne, eurodéputé du Rassemblement National depuis longtemps, Frédéric Chatillon, 4 ans de prison, dont 2 ans avec sursis, ce sont les réquisitions. Ce jugement, il a été mis en délibéré au mois d'avril prochain. Donc pourquoi des réquisitions aussi lourdes? Est-ce que vous êtes victime d'un complot, d'une machination de la part de la justice?
Ces réquisitions, je vais vous dire, elles sont délirantes. Mais elles ont un objectif. Bien sûr qu'elles ont un objectif, ces réquisitions. C'est de faire mettre un genou à terre au Rassemblement National, parce qu'à partir du moment où nous sommes le premier parti d'opposition et que visiblement, La République En Marche, M. Macron, ne réussissent pas à nous battre sur le terrain électoral, à la loyale. Ils ont décidé d'essayer de nous faire la peau autrement. Ces réquisitions, elles sont délirantes. Elles sont évidemment le signe d'une justice dont on peut se poser la question sur son indépendance, sur sa capacité à vouloir faire de la politique à la place
c'est
des politiques.
C'est la même justice qui vient de condamner par ailleurs un certain François Bayrou au centre ou un Jean-Luc Mélenchon
à
gauche.
Eh bien, je vais vous dire, j'ai le sentiment identique pour messieurs Mélenchon et Bayrou et pour tous les opposants à ce système. Oui,
François
j'ai
Bayrou
le sentiment
fait partie de la majorité et donc il y aurait une volonté de l'abattre lui aussi.
Oui, non, mais je pense que parfois monsieur Bayrou fait part d'une certaine indépendance dans la majorité et qu'il y a une certaine majorité qui aime bien tenir ses alliés par le col de la chemise, par la cravate, les tenir très courts pour qu'ils soient bien disciplinés. Et oui, moi je crois que dans notre pays, il y a une justice aujourd'hui qui ne fait plus preuve d'indépendance, mais qui cherche elle-même à faire de la politique.
Est-ce que le rôle de la justice, c'est pas aussi de se soucier de ce que devient l'argent des Français, en l'occurrence 9 millions d'euros qui auraient été surfacturés, donc remboursés par les contribuables, par l'ensemble des Français, par les auditeurs.
La justice va le dire, ça la justice le dira. Je vous dis que les réquisitions sont complètement délirantes. Je vous dis que la façon dont nous sommes traités, nous, le Rassemblement national.
Il n'y a eu aucune erreur dans l'organisation du financement
et nous n'avons rien
du Front national à l'occasion de ces élections législatives.
Et nous n'avons strictement rien à nous reprocher en cela. Je vous dis que la façon dont nous sommes traités, nous, un parti politique, à qui, alors, on refuse évidemment des comptes bancaires dans des fédérations, à qui on refuse une vie bancaire tout à fait normale alors que nous n'avons pas de dette. Eh bien, je dis que ça fait honte à la démocratie. Je me rappelle Emmanuel Macron qui disait il y aura une banque de la démocratie pour permettre aux partis politiques.
C'est François Bayrou qui avait dit ça d'ailleurs.
Et d'ailleurs, c'était une proposition de François Bayrou, absolument, pour permettre aux partis politiques de vivre, parce que la démocratie, c'est aussi la capacité aux partis politiques de vivre. Tout ça a été enterré. Aujourd'hui, on a un pouvoir politique. On le voit qui est autoritaire dans notre pays et qui cherche à faire taire ses opposants, même parfois ses alliés indisciplinés.
Sébastien Chenu, l'État vous réclame aujourd'hui un remboursement dans cette affaire de 11 millions d'euros. Si les juges le décident en avril prochain, est-ce que la survie financière de votre parti est en danger ?
Ça nous mettrait évidemment dans de graves difficultés. Mais c'est le but de cette demande de l'État. Bien sûr que l'État souhaite nous mettre dans la difficulté. Vous savez, nous sommes un parti pauvre financièrement, mais riche électoralement et riche de nos idées. Et donc, nous ne comptons pas nous faire abattre sur l'autel des demandes délirantes de l'État qui n'a pas trouvé d'autre moyen que de nous abattre. Donc oui, on sera en difficulté, mais on se reposera comme on l'a toujours fait. Nos forces militantes,
sur les adhérents,
sur les millions d'électeurs du Rassemblement National qui ne sont pas décidés à voir notre voix s'éteindre.
Et sur une subvention publique qui a considérablement cru, hein, puisqu'elle est proportionnelle à vos voix, donc elle est aujourd'hui de l'ordre de 5 millions d'euros par an.
Oui, mais elle a cru, vous venez de le dire, parce qu'elle est proportionnelle au nombre de voix, et je crois qu'elle pourra encore croître à l'avenir. Enfin, nous vivons la même chose que les autres en ce qui concerne la subvention. Heureusement qu'on n'est pas sous-traité ou moins bien traité, alors qu'on est le principal parti d'opposition. Non mais oui, de ce point de vue-là, oui, heureusement, merci encore, on a une subvention qui correspond au nombre d'électeurs que nous avons. Merci encore, faut remercier. Non, je pense que nous demandons, vous savez, être traités uniquement comme les autres. Pas mieux, pas moins bien, mais comme les autres. Or, c'est pas le cas. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai fait part, sur notre sujet, des agressions que subissent nos élus. On n'entend jamais personne pour les dénoncer. Nos permanences qui sont vandalisées. À Maubeuge, ça fait 6 fois que la permanence est vandalisée. On a entendu quelqu'un, un député du coin de La République En Marche ou un ministre pour s'en émouvoir, alors que la moindre affiche taguée d'un député de La République En Marche fait la une des journaux. Écoutez, ça va bien maintenant la façon dont on nous traite. Nous sommes le porte-parole de millions de Français et nous ne nous laisserons pas faire.
Enfin, est-il exact, Sébastien Chenu, que Marine Le Pen a renoncé à sa tournée qu'elle devait faire ces jours-ci dans les Antilles en raison de ses difficultés financières ou c'était pour rester en France pendant les manifestations ?
Marine Le Pen n'allait pas...
En métropole, excusez-moi, évidemment.
N'allait pas être sous les cocotiers de l'outre-mer en train de commenter les grèves qu'il se passe en métropole. Donc
c'est pour ça.
Il était de bonne politique. Bah oui, il était de bonne politique de rester ici. Elle ira, comme elle est allée maintes et maintes fois en outre-mer, à d'autres moments, évidemment.
Donc le Front National, financièrement, n'est pas sur la paille.
Aujourd'hui, nous avons encore de quoi subsister. Merci. Il y en a peut-être quelques-uns qui le regrettent. Mais aujourd'hui, nous avons encore la capacité à mener les élections municipales de 2020, par exemple.
Merci à vous, Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord et porte-parole du parti. Dans un instant, Marie Bernardo.
Et l'info politique, n'oubliez pas, c'est aussi un podcast original sur France Info. Paris, la bataille, le feuilleton des municipales. Un nouvel épisode tous les vendredis. Un podcast à écouter sur franceinfo.fr, disponible aussi sur l'application Radio France.